Bonjour à tous. La Russie est-elle à la manœuvre pour nous inonder de fausses nouvelles? Le pouvoir en France redoute que ce soit le cas lors de la campagne des européennes. Mais que sait-on vraiment de ce que font les Russes en coulisses? Faut-il les redouter? C'est ce que vous allez nous expliquer, Philippe Reltien. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec Ali Laïdi, nous passerons de l'Est à l'Ouest. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous considérez que les États-Unis se servent du droit pour mettre la main sur ce qui reste de nos fleurons industriels. Vous l'expliquez dans un livre qui vient de paraître chez Actes Sud et vous viendrez donc en parler tout à l'heure.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Ce mouvement des Gilets jaunes, il est né par des Français qui ont diffusé des messages en France. Par contre, il y a eu des comptes nouveaux qui ont été créés, qui ont massivement diffusé. On l'a connu pendant les élections américaines, on l'a connu pendant les élections françaises, d'autres pays l'ont connu après nous. C'est inacceptable.
Voilà, c'était Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique sur France Inter. Il reconnaît que le mouvement des Gilets jaunes est bien un mouvement de fond, mais il affirme qu'il a été attisé par une désinformation organisée sur Internet et le coupable, cité en creux par le pouvoir, ce serait la Russie qui, après l'élection de Donald Trump et le Brexit, déstabiliserait donc les institutions françaises. Alors avant la campagne des européennes, on a voulu nous enquêter pour savoir si le Kremlin est effectivement à la manœuvre pour fragiliser notre démocratie. On va voir que la réponse est moins simple qu'il n'y paraît, mais pour commencer, Philippe Reltien, il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est vrai que déstabiliser par de fausses informations, eh bien c'est un concept qui a été théorisé en Russie.
Théorisé et mis en application. Rappelez-vous, quand les Russes annexent la Crimée, ils commencent par couper le câble Internet de l'Ukraine, ce qui a permis aux médias russes d'occuper le terrain et de marquer les esprits avant le référendum sur leur attachement à la Russie. Cela montre qu'effectivement, pour le Kremlin, l'information est devenue une arme essentielle à laquelle on a même donné un nom. On appelle ça la guerre hybride, comme l'explique Damien Alicia du cabinet IDS Partners, qui est un spécialiste de l'influence russe.
La guerre hybride est un concept qui a été théorisé par le général Gerasimov, qui est le chef d'état-major de l'armée russe, et qui désigne grosso modo une évolution dans les règles de la guerre, avec cette idée aujourd'hui que les guerres ne sont plus forcément limitées et ne sont plus forcément bornées dans le temps, mais qu'il y a un continuum qui est particulièrement ambigu et particulièrement flou, entre d'un côté un conflit armé et de l'autre des conflits qui seraient davantage avec une dimension informationnelle. Le concept a fait florès et aujourd'hui est particulièrement utilisé pour affaiblir des démocraties, notamment dans les pays baltes ou sur des cas qui sont bien plus connus avec le cas du Brexit ou de l'élection de Trump en Amérique.
Ouais, donc exercer une influence sur les démocraties occidentales, ce serait un des objectifs du Kremlin ?
Effectivement, et pas seulement aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, la France, elle aussi, ferait partie des cibles, et ce pour des raisons que nous détaille Jérôme Bondu, de la société IES, qui forme à la sûreté numérique.
Les Russes, comme nos amis américains, comme nos amis chinois, comme tous ceux qui ont une volonté, on va dire impérial, hein, cherche à utiliser les maillons faibles. Et il me semble qu'actuellement la France et même l'Europe est un maillon faible dans le grand jeu d'influence numérique. Et je pense que nous sommes un gros gâteau dans lequel ceux qui ont une volonté de puissance sont en train de se servir.
Un gros gâteau, et comment ils font pour se servir dans ce gros gâteau, Philippe ?
Eh bien, c'est très simple. L'idée, c'est d'appuyer là où ça fait mal. On est en fait passé d'une époque où la Russie disait en gros « on est les plus beaux, on est les meilleurs » à une époque où on va plutôt mettre l'accent sur tout ce qui va mal chez les autres. L'objectif de cette nouvelle guerre de l'information, c'est de mettre en évidence les failles des démocraties, comme le fait remarquer Damien Alicia.
On n'est plus à l'époque soviétique où on avait grosso modo une propagande stricto sensu. Ils ont basculé sur une approche qui vise davantage à mettre l'emphase sur les éléments problématiques qui innervent des sociétés. Donc on va mettre la focale là où ça fait mal pour montrer que finalement les sociétés libérales sont également fracturées. De la part des Russes, la mise en récit et la mise en discours de la brutalité des régimes occidentaux, c'est un sujet qui est particulièrement important pour eux.
Ouais, cette mise en récit ou cette mise en discours, elle consisterait donc à montrer que les autres vont mal. Et comment on fait pour montrer ça ?
Eh bien, c'est simple aussi. On s'appuie d'abord sur des médias tout à fait officiels. Sur le terrain en France, vous avez deux acteurs essentiels. L'agence Sputnik, à l'origine de nombreuses coupes, comme par exemple la main arrachée lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Et la télévision RT France, qui est une abréviation pour Russia Today. Ces médias tournent des images qu'ils envoient ensuite en Russie et dans le monde entier via une plateforme de partage vidéo qui s'appelle Ruptly et qui, elle, est basée à Berlin.
Et quel type d'images est-ce qu'ils envoient ?
Eh bien, des images a priori gênantes pour le pouvoir français, quitte parfois à en modifier le sens pour dire par exemple que la police fraternise avec les gilets jaunes, ce qui était faux.
Et quel est l'intérêt de faire ça ?
Eh bien, un double intérêt. D'abord, vous montrez que finalement, ce qui se passe ailleurs est pire que ce qui se passe en Russie. Donc, vous légitimez le régime russe. Et ensuite, pour Nikolai Kobliakov, le président de l'association Russie Liberté, ça servirait d'argument à Vladimir Poutine pour interdire, par exemple, les manifestations chez lui, comme il l'a fait récemment.
Poutine a répondu aux journalistes. Vous voyez qu'est-ce qu'il passe à Paris ? Vous voudrez qu'ici, à Moscou, nous ayons exactement le même chaos, la même destruction des vitrines, de l'ensemble ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que nous ayons la situation que les Français ont aujourd'hui à Paris.
Et donc Poutine s'en sert.
Poutine utilise les images et les vidéos de Paris, des autres villes françaises, pour expliquer à tous les Russes que la liberté d'expression pour la Russie, c'est un danger.
Non, c'est un danger.
C'est un danger, oui.
Ah oui, donc RT permettrait indirectement au Kremlin de justifier sa politique. Et qu'est-ce qu'on répond à ça chez RT ?
On réfute bien sûr cette vision des choses jugée russophobe. Écoutez, Xenia Fedorova, la patronne de Russia Today à Paris. Voici ce qu'elle m'a répondu lorsque je lui ai soumis les arguments de Nikolai Kobliakov.
Je suis sûre que le président Poutine obtient ses informations par d'autres canaux que RT France. Il a d'autres sources pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et ce que vous essayez de faire, c'est de nous accuser de dégrader le climat en France et de nous rendre responsables de tout ce qui relève de la politique intérieure et étrangère de la Russie. Vous pensez que c'est la bonne façon de faire ?
Oui, donc elle dément avoir quoi que ce soit à voir, c'est le cas de le dire, avec les décisions prises à Moscou. Maintenant, cette façon de mettre quand même l'accent sur les mots des démocraties, Philippe, ben on ne la retrouve pas qu'en France.
Non, les médias officiels russes reproduisent le même schéma partout. Ce qu'on a constaté en France, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu aussi juste avant le référendum sur l'indépendance en Catalogne. Et à en croire un rapport français du Quai d'Orsay et de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, ce scrutin lui aussi aurait été visé par le Kremlin, parce qu'il cherche à tirer profit de tout ce qui peut fragiliser l'Europe. C'est en tout cas ce que montre cet extrait du rapport que nous avons fait lire.
Le référendum de la Catalogne en 2017 a fourni une nouvelle fois l'occasion au Kremlin de souffler sur les braises. Les médias russes, RT et Sputnik en tête, en ont fait une couverture sensationnaliste, en publiant de fausses cartes de soutien en Europe, où l'on voit le Royaume-Uni, les pays scandinaves et les pays baltes soutenir l'indépendance de la Catalogne, ce qui était faux, et où l'on fait le parallèle avec l'Ukraine et le Kosovo en titrant « Pourquoi l'OTAN ne bombarde pas Madrid pendant 78 jours ?»
Et en parallèle, le journal espagnol El País a constaté dans le même temps une suractivité de 2000% des comptes pro-russes sur les réseaux sociaux espagnols.
Ouais, 2000%, c'est pas rien. Parce que ce qu'il faut effectivement préciser, Philippe, c'est qu'il n'y a pas que les médias russes officiels qui sont à la manœuvre.
Non, à côté de ces vitrines avec pignon sur rue, vous avez aussi des algorithmes qui gonflent artificiellement le nombre des messages et des vidéos envoyées sur Internet. On appelle ces perroquets automates des bots. Écoutez à ce sujet Julien Ossetti, expert à l'IFRI et consultant sur la Russie. Il nous explique comment cette ingénierie numérique se met en place.
Ce sont précisément des rédacteurs à Paris, des webmasters qui...
Des intermédiaires
qui ont, via des manœuvres très très simples, ont la possibilité de poster tel photomontage et de le diffuser à grande échelle. Via des bots, donc des robots, des comptes automatisés qui vont ensuite répliquer ce type de discours ou de photos et influencer les algorithmes qui ensuite auront une influence sur vos propres requêtes. C'est-à-dire quand vous taperez « main arrachée Trocadéro » sur... Google, par exemple, vous tomberez très rapidement tout en haut de la page sur l'article ou les photos de RT.
Ah oui, donc on booste en quelque sorte les contenus des médias officiels. Mais il y a plus que ça, Philippe Reltien. Il existe aussi toute une activité souterraine, cette fois-ci, dont les méthodes, elles, sont carrément douteuses.
Oui, et la première entreprise russe clairement dédiée à la désinformation est située à Saint-Pétersbourg. C'est une véritable usine à faux comptes, à faux messages et à fake news, qui relève d'ailleurs aujourd'hui du secret de Polichinelle, comme me l'a expliqué François Bernard Huyg, directeur de recherche à l'IRIS et auteur du livre « Fake News, la grande peur ».
Il existe, ça c'est un fait pour lequel on a apporté, plusieurs preuves et même des témoignages de l'intérieur. Il existe effectivement à Saint-Pétersbourg ce qu'on appelle une fermatrolle, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont employés toute la journée pour monter artificiellement certains comptes, ils cliquent toute la journée et ils répandent des messages en se faisant passer souvent comme étant d'une nationalité qui n'est pas la leur.
Bon, mais attendez, là, c'est assez fou ce qu'on entend, Philippe. Une usine à fausses nouvelles qui aurait l'aval du Kremlin. Et ça a été documenté, ça?
Absolument. Ça figure noir sur blanc dans le fameux rapport dédié aux manipulations informationnelles français. Écoutez ce nouveau passage que nous avons fait lire. Il détaille par le menu le fonctionnement de cette usine à trolls.
L'agence de recherche Internet russe IRA est une entreprise financée par le Kremlin dont l'existence a été révélée en 2013 par des journalistes russes. Elle emploie des centaines de jeunes rédacteurs travaillant 12 heures par jour et formés aux positions du Kremlin sur tous les débats clivants à exacerber, parmi lesquels les thèmes du racisme, des armes à feu, de l'immigration. Par le biais de faux comptes et d'automates, et moyennant 100 000 dollars dépensés en publicité, l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg a pu atteindre 150 millions d'Américains via Facebook et Instagram. À elle seule, aux USA, la Russie possédait sur Twitter 3800 faux comptes et 50 000 comptes relais.
Et je précise que l'oligarque propriétaire de cette entreprise fait partie des personnes inculpées aux États-Unis dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine en 2016. Mais les services américains ont fait beaucoup mieux que ça. Ils ont réussi à identifier et à lister les noms des trolls qui travaillent dans l'usine de Saint-Pétersbourg, comme nous l'explique encore François Bernard-Huy.
Les Américains ont donné les noms et les adresses de gens qui sont dans cette ferme de Saint-Pétersbourg et des opérations qu'ils avaient menées sur Internet. Alors, j'interprète la chose de la façon suivante. Les services américains, qui sont dans un conflit avec Trump en ce moment, ont envoyé un message à la Russie. Notre renseignement humain est tellement fort que nous savons le nom des gars qui étaient au bureau à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, tel jour, à telle heure.
Ouais, donc cette fermatrolle aurait clairement travaillé sur les élections américaines. Et chez nous, en France, Philippe, c'est aussi le cas?
Eh bien, a priori, non. Rien ne le prouve. En revanche, la Grande-Bretagne, elle a bien été ciblée pendant le Brexit.
Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu que la Russie est capable de s'ingérer dans des campagnes électorales à l'étranger, notamment via son usine à trolls de Saint-Pétersbourg, eh bien voyons ce qu'il en est en France. Et d'abord, est-ce qu'on a des preuves d'une ingérence russe dans notre pays, Philippe Reltien?
Alors des preuves, non, on n'en a pas. Et c'est tout le problème parce qu'on est dans un domaine où l'on peut facilement brouiller les pistes et où il faut se méfier des apparences, vraiment. En revanche, des soupçons, il y en a. Et le premier concerne ce qu'on a appelé les Macron Leaks.
Alors on va rappeler ce que c'est.
C'était pendant la présidentielle de 2017, entre les deux tours. Des serveurs de En Marche ont été piratés, des mails ont fuité sur Internet. Mais on a aussi diffusé une fausse rumeur à propos d'un compte offshore qu'Emmanuel Macron aurait caché aux Bahamas.
Et cette rumeur, elle aurait été lancée par des Russes?
Alors là encore prudence. Mais un ancien enquêteur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui dépend de Matignon, Emmanuel Gras, se souvient qu'effectivement, cette piste était privilégiée et il nous dit pourquoi.
En dévoilant ces informations, l'attaquant avait finalement glissé, alors de façon volontaire ou pas, ses traces dedans. Puisqu'on a retrouvé dans les documents qui ont fuité et attribués à La République En Marche, certains documents avaient été modifiés avec un nom d'auteur, un document Word, et avaient été modifiés avec un nom d'auteur russe. Alors, est-ce que c'est l'attaquant qui a été inattentif et qui a laissé sa trace dedans? Est-ce que c'est un attaquant qui n'est pas russe, mais qui a voulu faire croire qu'il était russe? On s'est dit que peut-être, là, dans ces cas-là, cette déstabilisation en particulier bénéficiait à la Russie, et que donc le faisceau de preuves techniques qu'on avait par ailleurs, les dates de modification des documents, les noms, tout ceci convergeait vers un point.
Ouais, converger en l'occurrence vers la Russie, hein, c'est ce qu'on comprend. Sauf que cette fuite, elle est aussi, Philippe, passée par les États-Unis.
Oui, et ça complique tout, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que la Russie n'y est pour rien. Mais effectivement, cette rumeur a transité par un forum de discussion américain fréquenté par des membres de l'extrême droite américaine, l'alt-right. Bref, l'origine n'est pas forcément celle qu'on croit, nous dit l'expert Damien Licia.
une partie du discours veut que ça vienne de Russie, mais on a également une circulation qui passe par 4chan. Pour les gens qui connaissent, ça ressemble un petit peu à ce qu'est le forum 1825 de jeuxvideo.com, où ce sont des jeunes, des geeks qui échangent, et c'est un petit peu le terreau de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, donc qui constitue la base forte et la vieille garde de Donald Trump. Après, la question, et il faut vraiment l'avoir en tête, il y a une porosité qui est plus ou moins réelle entre l'alt-right américaine et des officines qui gravitent dans l'écosystème de Moscou et qui peuvent avoir intérêt à utiliser l'alt-right américaine pour blanchir ces sujets.
Ouais, donc en fait, la seule chose dont on soit sûr, hein, c'est qu'entre l'extrême droite et la Russie, mais ça on le savait déjà un peu, il y a des points de convergence maintenant pour le reste. Alors Philippe, on va quand même revenir 2 minutes maintenant sur la crise des Gilets jaunes, parce que c'est quand même le deuxième épisode marquant pendant lequel on s'est aussi demandé là si la main de Moscou n'était pas à la manœuvre.
Oui, en décembre dernier, 2 médias très sérieux, le Times de Londres et Bloomberg, affirment que 200 faux comptes Twitter liés à la Russie auraient été créés spécialement pour pousser à la révolte en propageant des fake news. On raconte notamment, ce que je vous disais tout à l'heure, que la police fraternise avec les Gilets jaunes. Et cela avait frappé Nikolai Kobliakov, le président de l'association Russie Liberté.
Cette nouvelle était publiée sur le site Sputnik. Et ces 200 comptes ont diffusé la nouvelle qui était publiée sur le média assez officiel.
Autrement dit, la fausse nouvelle, là, c'était que la police s'était mutinée, quoi.
C'était pas vraiment fausse nouvelle, oui. C'était 2 syndicats de police, je crois, qui représentent pas plus que 4% de tous les policiers, qui ont dit quelque chose que, oui, nous sommes un peu à côté de Gilets jaunes. Mais ça a été représenté sur le site officiel russe comme le fait que police français n'est plus obéi au président de la République, mais aujourd'hui, c'est...
Soutient
le mouvement de proteste. Et ces 200 comptes, ils ont diffusé cette nouvelle immédiatement.
D'ailleurs, à la suite de ces allégations, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a chapeauté une enquête pour vérifier s'il y a eu manipulation par une puissance étrangère, mais à ce jour, on n'en connaît pas le résultat.
Bon, mais qui y aurait derrière ces 200 fameux faux comptes? Est-ce qu'on est sûr d'abord que ça vient de la Russie?
Eh bien non. Évidemment, on parle plutôt de russosphère, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des comptes qui relaient des infos diffusées sur les médias russes, mais cela peut être le fait de Gilets jaunes ou d'autres Français qui relaient ces informations tout simplement parce qu'elles leur conviennent. Et puis, ce recensement des 200 comptes, il a été fait par une ONG américaine qui s'appelle New Knowledge, à distance. Et selon Kevin Limonier, chercheur à l'IHEDN, elle a très bien pu se tromper.
New Knowledge est une ONG américaine avec des analystes américains qui sont soit peu au fait ou soit assez étrangers au contexte français et qui peuvent, par exemple, confondre un militant de Marine Le Pen, par exemple, avec un militant pro-russe. La grande question est de savoir si les comptes dont parle ce rapport sont bel et bien des comptes que l'on peut attribuer à des agences russes qui mèneraient des opérations semi-clandestines de manipulation de l'information, type IRA, ou si elles sont le fait de citoyens français qui trouvent, grâce aux médias russes et grâce à tout cet écosystème russe, une chambre d'écho.
Bon, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire alors, Philippe? Ces 200 faux comptes pro-russes, ils pourraient avoir été créés par des Français?
C'est possible, ou en tout cas en partie, et dans ce cas-là, on aurait affaire à un partage d'informations entre des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont des intérêts communs.
Ouais, on laisse le sujet ouvert, donc difficile, là encore, d'en tirer une conclusion. Maintenant, est-ce qu'on a évalué le pouvoir de nuisance de ces faux comptes? Ou pour faire simple, est-ce que cette manipulation a eu un impact, par exemple, sur le mouvement des Gilets jaunes?
Alors ça aussi, c'est une question sur laquelle les chercheurs ont travaillé et beaucoup mettent en garde sur l'influence réelle qu'on peut attribuer à ces manipulations. Damien Lichia, par exemple, ne nie pas qu'elles existent, mais il tient à les relativiser.
Rue Chateaudet et Sputnik, oui, ont été actifs sur le sujet. Après, est-ce qu'il faut qu'on bascule dans du méta-complotisme ou on va réduire des mouvements politico-sociaux français type les Gilets jaunes uniquement à la question de l'ingérence? Alors qu'on est face à un mouvement qui, sur Facebook et sur Twitter, est particulièrement foisonnant avec des centaines de milliers de comptes, comment peut-on raisonnablement considérer que 200 comptes peuvent avoir la moindre influence? C'est une goutte d'eau dans un océan. C'est pas le Kremlin qui a pu faire naître ce mouvement grassroots. C'est pas le cas.
Ouais, donc pour lui, les manips existent, mais elles auraient peu d'effet. Et cette remarque, d'ailleurs, elle vaut aussi pour une autre affaire qui a été très médiatisée.
Oui, l'affaire Benalla, qui elle aussi a donné lieu à un déchaînement de tweets de la part de ce qu'on appelle la russosphère. Et effectivement, on a pu faire dans ce cas-là le même constat, estime l'expert en cybersurveillance.
Début août, il y a eu des centaines de milliers de comptes, essentiellement sur Twitter, parce que voilà, il y avait une très très grosse activité, qui relayait du contenu sur l'affaire Benalla. À un moment donné, il y a une étude qui a été faite par une ONG qui est spécialisée dans la lutte contre les désinformations et qui considère qu'il y a un écosystème russophile, c'est le terme qui est employé, qui est à la manœuvre dans le cadre de l'affaire Benalla. Bon, derrière, on bascule sur un narratif, on se dit, du coup, l'affaire Benalla, elle doit être, comme l'a été le Brexit, comme l'a été l'élection de Trump, attribuable à la Russie. C'est quasiment d'une forme, de certaine manière, d'une forme de théorie du complot qui va être inversée. Et on est sur une vision qui ôte toute naturalité au mouvement, alors que c'est un mouvement, finalement, quand on le déconstruit, qui est très franco-français.
D'accord, donc si j'entends bien, là encore, la désinformation russe existerait bel et bien, mais son effet, lui, resterait marginal. Et son effet sur les résultats des élections, cette fois-ci, Philippe, élections ou référendum d'ailleurs, est-ce qu'on l'a évalué, ça ?
Oui, les chercheurs ont également travaillé sur cette question, et leur réponse laisse peu de place au doute. Écoutez, François Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS.
Il y a eu plusieurs études. Elles ont été faites par des universités, American Dartmouth University, etc., qui disent que l'effet des fausses nouvelles sur les élections est nul, parfois contre-productif, d'ailleurs ça peut mobiliser dans l'autre sens, et en tout cas qu'il ne touche que des super convaincus qui se renforcent dans leurs convictions parce qu'ils sont à la chasse de propos diffamatoires contre l'adversaire.
Ouais, donc lui aussi relativise l'impact de ces fausses nouvelles. Et puis il y a autre chose que vos interlocuteurs ont souvent souligné, Philippe, c'est que la manipulation sur Internet, c'est pas l'apanage de la Russie.
En effet, c'est ce qu'on m'a souvent rappelé au cours de cette enquête. Pirater, espionner, désinformer, ce sont des pratiques utilisées aujourd'hui par la plupart des grandes puissances. Écoutez par exemple ce que pense à ce sujet Jérôme Bondu de la société de sécurité numérique IES.
Vous avez bien évidemment chez nos amis russes des centaines ou des milliers de personnes qui sont chargées de créer des comptes, de diffuser des fausses informations. Pas de problème, je pense que c'est un fait acquis. Mais sans cesse, j'essaye de ramener le curseur au bon endroit. Vous vous rendez bien compte que la création de botnets, donc de robots, donc d'automatisation de l'envoi de messages, que ce soit des centaines ou des milliers d'outils qui font ça, n'est rien à côté de la frappe qu'a pu être les 80 millions de comptes du scandale Cambridge Analytica. Et encore une fois, dès que nos amis russes lèvent le petit doigt et qu'on se rend compte qu'ils ont manipulé quelques comptes, on pousse des cris d'orfraie. Et à côté de ça, Edward Snowden, qui nous explique que nous sommes fliqués, traqués, que les téléphones de nos présidents sont sur écoute, ça passe comme une lettre à la poste. Nous avons deux poids, deux mesures.
Ouais, deux poids, deux mesures, estime Jérôme Bondu. Et lui, d'ailleurs, hein, Philippe, il montre plutôt du doigt donc les États-Unis.
Oui, mais il n'est pas le seul. Alain Juillet, l'ex-patron du renseignement de la DGSE, lui va encore plus loin. Il considère que les États-Unis érigent parfois la fake news en mensonge officiel lorsque cela sert leur intérêt. Et il en veut pour preuve la campagne de dénigrement qui a été lancée contre le fabricant de téléphones chinois Huawei, qui est soupçonné de vouloir espionner tout le monde avec ses appareils.
Regardez la fake news sur ça. En 2011, il y a une étude sur Huawei qui a été faite pour savoir s'il avait mis justement des systèmes d'écoute dans ses propres systèmes. Et la conclusion de l'étude canadienne, ça a été de dire « il n'y a rien ». Ah, pourquoi on n'en parle pas de ça ? Moi, je ne suis pas en train de défendre Huawei. Mais pourquoi aujourd'hui Huawei est attaqué, par exemple ? Savez-vous pourquoi ? C'est simplement parce qu'ils ont 2 ans d'avance sur les 5G. Donc le problème des Américains, c'est de retarder actuellement l'achat de 5G jusqu'au moment où ils seront au point. Bon, et bien ça, c'est de la fake news dans la pratique de tous les jours.
Bon, et la conclusion de tout ça, alors, c'est quoi, Philippe ? Tout le monde désinforme ?
Eh bien oui, ou presque. Alors, on peut toujours se rassurer en se disant qu'aujourd'hui, avec un peu de travail, le vrai est encore discernable du faux. Mais demain, quand l'intelligence artificielle répliquera à la perfection le son de la voix ou l'image d'un candidat, eh bien là, on ne pourra plus rien prouver du tout et on ne saura plus distinguer le vrai du faux.
Vous êtes en train de nous dire qu'on a du boulot et que c'est pas gagné, hein, si je vous entends bien. En tout cas, merci Philippe pour nous avoir éclairé sur ce sujet complexe, beaucoup plus nuancé d'ailleurs qu'il n'y paraît, hein, je le disais au début. Alors je précise qu'on peut réentendre votre enquête sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. Mais restez avec nous dans quelques instants après les manip russes. Ben on va voir comment les États-Unis, eux, utilisent le droit pour mettre la main sur nos entreprises. Big boss man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. You got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. C'est beau, hein, doux country, folk à la fois, un petit côté Norah Jones. C'était Big Boss Man, un vieux titre d'ailleurs de Bobby Gentry, qui a été revisité par la chanteuse américaine Hope Sandoval sur un arrangement de Mercury Rêve.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et après l'influence russe, on va maintenant parler de celle des États-Unis avec Ali Laidi. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Le droit, nouvelle arme de guerre économique. C'est un livre qui sort d'ailleurs peu après celui de Mathieu Aron et Frédéric Pierucci, qui s'appelait lui Le piège américain. Et finalement, vous dites un peu la même chose, hein. Sous couvert de lutte contre la corruption, les États-Unis mettraient en fait la main sur de grosses sociétés étrangères, dont des françaises. Et la clé de tout ça, c'est un nom de code. Ça s'appelle le FCPA. Alors peut-être pour démarrer en deux mots, dites-nous c'est quoi le FCPA?
Le FCPA, c'est la loi américaine qui a été votée en 77 pour lutter contre la corruption des agents publics étrangers des entreprises américaines. Parce qu'en 77, à la suite du scandale du Watergate, on s'aperçoit en effet qu'il y a beaucoup de corruption de la part des entreprises américaines. Et le fait est, à l'époque, ce n'est pas condamné par la loi américaine. Ce qui était condamné par la loi américaine, c'était le fait de ne pas déclarer les commissions versées dans le cadre de ces corruptions, dans tout ce qu'on connaît dans la transparence.
Donc ça part d'une bonne intention.
Ça part d'une bonne intention de pour le coup, là, obliger les entreprises à le déclarer, et surtout après, la loi va décider d'interdire tout simplement la corruption. Sauf qu'en 77, on va s'apercevoir d'un gros problème, c'est qu'il va y avoir une distorsion de concurrence, puisque seules les entreprises américaines sont soumises à cette loi FCPA.
Mais ils vont s'ériger, parce que c'est ça le problème, en gendarme du monde. Et là, il y a un moment où cette bonne intention va dériver.
Ben oui, ils vont tout à fait comprendre que ces lois d'extraterritorialité, donc il y a la loi qui lutte contre la corruption, mais il y a également les lois qui luttent contre la violation des embargos américains. Les Américains mettent dans des listes un certain nombre de pays avec qui il est interdit de commercer, que ce soit une entreprise américaine ou une entreprise étrangère. Donc voilà deux lois qui vont apparaître comme des instruments extrêmement agressifs dans la protection des intérêts économiques américains et des instruments extrêmement intrusif dans les entreprises étrangères visées par ces deux lois.
Oui, parce que de nombreuses entreprises françaises sont déjà tombées sous le coup de cette loi, ont été condamnées à de lourdes amendes, mais ça va beaucoup plus loin. Et on l'a vu donc notamment avec l'affaire Alstom, General Electric a mis la main en fait sur la partie énergétique d'Alstom.
Technip aussi, un géant français du parapétrolier, qui a été confronté à la loi FCPA, donc de lutte contre la corruption, et qui, après avoir payé une lourde amende, s'est vendu à une entreprise américaine qui était bien en dessous de son niveau. Donc Technip est parti également dans l'escarcelle des Américains. Donc voilà comment un outil juridique est utilisé pour protéger les intérêts économiques des États-Unis. Et ça va plus loin parce que, évidemment, à partir du 11 septembre 2001, ils vont comprendre, les Américains, que ces lois-là vont également leur servir à lutter contre le terrorisme.
Alors celui qui est dans le collimateur aujourd'hui, des Américains, potentiellement, c'est Airbus. Et ça, c'était énorme, parce que derrière, il y a Boeing, et on l'a vu ces derniers jours, Boeing qui est en difficulté, qui peut utiliser cette arme-là aussi, via la justice américaine, pour essayer de mettre la main sur Airbus.
L'affaire Airbus est assez simple, hein. Les patrons d'Airbus s'aperçoivent qu'ils n'ont pas déclaré tous les intermédiaires dans un certain nombre de marchés, ce qui est interdit. Ils vont s'auto-dénoncer d'abord à la justice anglaise, le SFO, et ensuite au PNF français, le parquet national financier français, en espérant, c'est une stratégie, que les Américains vont pas mettre leur grain de sable dessus. Manque de peau, en effet, les Américains décident également de mettre Airbus sous enquête interne.
Donc il y a trois enquêtes aujourd'hui contre Airbus,
il y en a
deux
même
en Europe, une aux États-Unis et la quatrième.
Il y en a quatre puisque les Américains enquêtent déjà à propos d'Airbus sur la réglementation ITAR. C'est une réglementation qui fait que vous devez déclarer aux Américains les technologies que vous utilisez et que vous réexportez à l'étranger. Et là il y a déjà une enquête pour Airbus.
Ce qui veut dire qu'on peut imaginer que si demain Airbus devait être condamné par les États-Unis, Boeing mettrait d'une certaine manière la main sur les informations détenues par Airbus.
Ah bah écoutez, c'est très simple, ces informations elles sont déjà passées en partie de l'autre côté de l'Atlantique. Comment ça marche ? L'administration ou l'autorité de poursuite américaine déclare que vous êtes en train de violer la loi américaine sans vous donner plus d'informations. Elle vous oblige à collaborer et donc à faire une enquête interne avec vos propres avocats que vous payez des millions de dollars pour prouver que vous avez bien violé la loi américaine. Si vous prouvez que vous avez bien violé la loi américaine, alors l'amende sera basse. Si au contraire vous collaborez,
donc il faut que vous espionniez vous-même et que vous transmettiez ces informations-là aux Américains.
Enquête BNP, des millions d'informations transmises au DOJ et donc au FBI.
Voilà. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'aux États-Unis, la justice collabore aussi avec les grandes entreprises. C'est-à-dire que ces informations, elles remontent aux entreprises.
Alors c'est ce qu'on a vu dans l'affaire Alstom, hein, avec le General Electric. Il y a eu un moment où, après la condamnation de Alstom par le DOJ, donc le ministère de la Justice américaine, et jusqu'au moment de paiement de la sanction, ça a duré quelques mois, on a vu General Electric se mêler de l'affaire et être invité par le département de la justice américaine à négocier avec elle le rachat du secteur énergie d'Alstom.
Bon, alors autre souci que vous pointez dans votre livre, c'est le fait que 80% des cabinets d'avocats d'affaires sur la place de Paris sont américains ou sont liés à des intérêts américains. Et vous dites ça aussi, c'est un problème parce qu'on peut imaginer que des avocats parisiens transmettent des informations à des entreprises américaines ou à la justice américaine ?
À la justice américaine, c'est très clair. Hein, ces informations sont transmises en dehors du cadre légal. Parce qu'il y a une loi en France qui date de 68, réactivée en 80, qui interdit aux entreprises françaises de donner des informations à une administration étrangère sans passer par la collaboration classique des justices. Donc, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que quand vous êtes sous enquête américaine, l'administration de la justice américaine exige que vous ayez un cabinet américain pour vous défendre. Donc vous n'avez pas le choix. Et ce cabinet américain vient à Paris, envoie ses avocats, faire les interviews, réclamer les informations et envoyer ces informations au cabinet à Washington et également au département de la justice. Donc il y a un siphonnage de l'ensemble des informations stratégiques de l'entreprise qui partent dans la communauté du renseignement américain.
Alors ça, c'est un des aspects de l'utilisation du droit, via cette fois-ci les avocats, mais il y en a un autre que vous évoquez, c'est-à-dire on fait voter des lois. Il y en a une notamment qui est passée un peu sous les radars, mais qui est juste complètement dingue. Vous expliquez que aujourd'hui, les agences de sécurité fédérale, donc, ont accès depuis Trump, depuis mars 2018, à toutes les informations contenues dans les serveurs de Microsoft, de Facebook, d'Amazon, de Google.
Oui, il y avait une loi aux États-Unis qui ne fonctionnait plus aux yeux de la communauté du renseignement américain, qui disait « Vous, les entreprises américaines, vous avez obligation de nous fournir toutes les informations qui sont dans vos serveurs. » Sauf que Microsoft a dit à un moment sur une affaire précise « Ah mais non, mon serveur n'est pas sur le territoire américain, donc je ne peux pas vous fournir cette information. » On a donc changé la loi, c'est le fameux Cloud Act, et cette loi américaine est très claire. Toute autorité de poursuite américaine peut vous réclamer des informations, même lorsque ces informations sont situées dans l'un de vos serveurs à l'étranger.
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que les géants du net, eux, se félicitent de cette loi. Ils considèrent qu'elle protège mieux les droits individuels. Alors là, j'ai pas compris.
Oui, moi aussi, j'ai été vraiment assez surpris. Mais en effet, les GAFA ont plutôt soutenu cette loi. Ben, parce qu'en gros, il y avait un contexte qui leur permettait juridiquement de fournir ces informations sans en alerter leurs clients. Alors qu'avant, s'ils fournissaient cette information, le client pouvait attaquer les GAFA. Là, non, ils sont protégés par la loi américaine.
Bon, ben merci de toutes ces explications, Ali Laïdi. Donc, je précise que votre livre s'intitule « Le droit », je le rappelle d'ailleurs, je l'ai déjà précisé, « Le droit, nouvelle arme de guerre économique » et il est édité chez Actes Sud. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée cette semaine par Sonia Leglen, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Élise Christophe et Elisabeth Collet. Dans quelques instants, c'est CO2 Mon Amour, Denis Chessou va vous emmener dans le pays des écrins. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.